J'ai eu le privilège de grandir dans un institut biblique. C'était à Nogent-sur-Marne, de l'autre côté de Paris, et j'avais comme grand frère les étudiants qui fréquentaient l'école. Nous vivions avec mes parents, nous vivions dans le bâtiment même de l'école, et c'était une joie pour moi de vivre avec ces étudiants. Et d'ailleurs, ils me taquinaient en me disant, quand tu seras grand, tu seras pasteur, tu seras professeur, et je n'aimais pas ça. Alors, moi, j'aurais voulu être chef de gare quand j'étais. Mais c'est Dieu qui m'a appelé et qui m'a fait comprendre ce qu'il voulait de moi. Je pense que dans la transmission familiale, il y a à la fois tout l'héritage qu'on peut recevoir, et puis aussi la façon dont Dieu s'adresse aussi personnellement à chacun d'entre nous. C'est pas l'héritage qui peut nous sauver, qui peut nous appeler au service de Dieu. C'est toujours la grâce de Dieu. C'est toujours un mystère, une grâce. C'est jamais quelque chose de normal qui se transmet. Mais il y a aussi toute la richesse de cet héritage spirituel. Alors ma famille vient du côté de mon père, vient de la Suisse, et c'est un peu par hasard, si on peut dire, que mon père est venu à l'Institut biblique de Nogent, qui avait été fondé par Rubin Sayens, qui avait vécu le réveil du pays de Galles et qui avait voulu former des serviteurs de Dieu pour la France. D'ailleurs, c'est aussi l'Institut biblique de Nogent a été créé pas tellement pour former des pasteurs, mais pour former des femmes, parce que c'était à la fin de la guerre de 14 et il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts. Et ils voulaient former des femmes pour se consacrer au service de Dieu. Et c'était l'idée de Madame Sayens. Et puis son mari a dit, mais il faudrait quand même qu'il puisse y avoir aussi des garçons dans l'école. Et donc c'est comme ça que l'Institut biblique de Nogent a pris naissance. Et donc c'était un peu trop long d'expliquer pourquoi mon père s'est trouvé à l'Institut biblique de Nogent. Mais là, il a rencontré un ami qui lui est devenu très cher, qui était Jacques Blocher, qui était le petit-fils du fondateur de l'Institut biblique de Nogent. Et ils ont vécu très proches l'un de l'autre, et ils dirigeaient à eux deux l'Institut biblique de Nogent. Et la faculté de Vaud, elle est née dans le sillage de ces instituts bibliques, celui de Nogent et ceux d'autres instituts bibliques qu'il y avait à cette époque en Suisse, en Belgique. Et l'idée, c'était de former des pasteurs avec un niveau de formation qui corresponde au niveau universitaire qui est en train de se généraliser en France. Donc, ce sont ces instituts bibliques qui ont été sollicités par les églises pour mettre en place cette institution de formation. Et donc, j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir participer à cette formation des serviteurs de Dieu à la faculté de Vaud depuis 78 jusqu'à récemment, mais je continue encore à donner quelques coups de main depuis que je suis à la retraite depuis 2 ans. Alors je rends grâce au Seigneur pour l'héritage qui m'a été transmis. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce particulière à mon égard qui m'a appelé à son service.
Juste une petite précision en parlant de collège biblique et d'institut biblique. Quelle est fondamentalement la différence entre les deux et en quoi, au niveau universitaire, est-ce qu'il peut perturber un petit peu la compréhension, enfin la compréhension biblique? Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot entre les deux, parce que souvent on ne sait pas trop.
L'institut biblique, il a été créé dans le sillage de ce qu'on appelait aux États-Unis des Bible Schools. C'était pour former des personnes sans qu'il y ait un niveau de formation générale, exigée. Et c'était aussi parce que la plupart des institutions de formation universitaire avaient été gagnées par le libéralisme, un manque de confiance dans la parole de Dieu, un manque d'enthousiasme pour annoncer l'Évangile. Et donc on voulait revitaliser les églises avec ces institutions de formation. Alors, en créant une faculté de théologie, on a voulu aussi donner un niveau de formation universitaire, mais en maintenant aussi l'élan, la foi, la confiance dans la parole de Dieu. Et c'est un combat qui doit être constant, parce que on a vu très souvent au cours de l'histoire du 19e, du 20e siècle, des établissements qui étaient fondés avec une bonne vision s'écarter petit à petit de cette vision. Donc il y a une volonté de rester fermement attaché à la parole de Dieu, d'être ouvert à l'action, à l'œuvre de l'Esprit dans la vie de chacun, pour que Dieu continue à utiliser ces établissements de formation pour le bien des églises.
J'en profite parce qu'il vient pas souvent, hein, donc faut profiter. Est-ce que la science vous fait peur un petit peu dans l'Institut biblique d'affronter les choses scientifiques quelque part avec la Bible?
La science, les sciences de la nature, Donc c'est important de connaître les choses, de savoir, de bien aussi percevoir ce qu'on peut dire en tant que croyant, quelle est la part qu'il y a en nous entre la foi et puis les véritables démonstrations. Moi c'est important de ne pas confondre les choses. En tant que croyant, nous croyons, et c'est un des enseignements fondamentaux de la Bible, c'est qu'on croit, hein, on a des convictions, et ces convictions ne dépendent pas de démonstrations ou de preuves accumulées. Alors il y a des choses qu'on peut prouver, il y en a d'autres qu'on ne peut pas prouver et qu'on croit. Et je crois que c'est important de bien faire la différence entre les deux. On peut pas prouver scientifiquement que Dieu est le créateur. C'est pas possible. On peut pas le prouver scientifiquement. On peut pas prouver scientifiquement que l'histoire de la délivrance des Israélites du pays d'Égypte et de la conquête du pays de Canaan a eu lieu. On le croit parce que c'est les récits nous le rapportent. Et donc il faut toujours bien faire la différence entre ce que l'on recherche scientifiquement, et c'est une démarche qui est tout à fait recommandable, ce qu'on recherche, ce qu'on démontre, et puis ce que l'on croit. Et il ne faut pas que ça se batte non plus dans notre tête et dans notre cœur.
Voilà, Michel va prier pour les enfants qui vont rejoindre les classes d'école du dimanche.
Seigneur, merci pour les enfants qui sont ici. Merci Seigneur, parce que le témoignage qu'on vient d'entendre nous rappelle aussi que ce n'est pas seulement la famille qui transmet, mais c'est toi qui appelles. Et c'est super quand il y a les deux. Et Seigneur, nous croyons que tu appelles chacun des enfants qui sont ici, chacun en particulier. Tu as un appel, une vocation pour chacun. Et nous te prions que ces temps de culte le dimanche matin puissent les aider à entendre ton appel, pour répondre oui et pour s'engager avec toi. Et merci Seigneur pour tout ce qui est transmis dans les familles, pour tout ce qui est transmis dans l'église, pour les monitrices qui le font avec tout leur cœur. Que tu les bénisses aussi Seigneur, et que ce matin soit encore un temps béni, tous ensemble. Amen.
Seigneur, merci pour tous les cœurs qui viennent t'adorer ici et merci pour tous les dons qui ont été donnés pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, amen.
Voilà, alors que les enfants partent dans les écoles du dimanche, on va prier pour ce temps où Nicole va nous apporter la parole, apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour partager ce matin, que nous puissions la recevoir et aussi la mettre en pratique. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, c'est avec une profonde reconnaissance que nous venons dans toi pour la parole qui est éternelle. Cette parole que tu as révélée à tes serviteurs et que nous pouvons ouvrir ce matin pour, Seigneur, recevoir encore, Seigneur, la nourriture dont nous avons besoin, Seigneur. Éclaire-nous. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la dimension de la foi véritable, Seigneur, celle qui non seulement croit, mais agit, Seigneur, pour pratiquer ta parole, Seigneur. Merci de ce temps ce matin où tu vas nous parler. Nous te remettons, Émile, et nous te demandons de revêtir ton esprit pour qu'il nous parle avec l'autorité de ton esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, je remercie André Hubert pour l'invitation qui m'a été adressée, et puis c'est une joie pour moi de vous dire le prix que nous attachons aux liens qui unissent les différentes églises de la région du Mantois, et également la faculté. Je suis impliqué dans la faculté, comme cela a été rappelé. Je suis également membre d'une église à Melun, et nous sommes depuis de nombreuses années liés par la foi, par la volonté d'avancer et de travailler pour la gloire de Dieu dans cette région. Et donc je tiens à vous le dire et à dire ma reconnaissance pour ces liens qui nous unissent. Le texte de l'Écriture que je voudrais vous inviter à écouter se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20. Et je voudrais m'arrêter spécialement sur la rencontre de Jésus avec Thomas, mais il nous faut lire à partir du verset 19 du chapitre 20 pour avoir l'arrière-plan de cette rencontre. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-là seront pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt. « Regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous sommes le dimanche après Pâques, et c'est en quelque sorte le jour de Saint Thomas, puisque c'est exactement une semaine après le dimanche de Pâques que Jésus a accordé cette séance de rattrapage pour que Thomas, lui aussi, puisse bénéficier de cette rencontre exceptionnelle avec le ressuscité. La rencontre qu'il avait manquée la semaine d'avant. Alors Thomas, il est passé dans notre culture comme une sorte de saint patron des méfiants. Moi, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Je pense qu'il vaut la peine de passer un moment en compagnie de cet homme au franc-parler, parce qu'il nous aide, peut nous aider à mieux percevoir nos propres doutes, à les percevoir dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de l'Esprit et dans la lumière de Jésus ressuscité. Le Nouveau Testament nous rapporte trois occasions au cours desquelles Thomas a prononcé des paroles assez senties. Et je vous propose de parcourir ces trois occasions. La première réflexion de Thomas qui nous est rapportée dans les évangiles, nous la trouvons au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Elle se trouve dans le récit de la mort et de la résurrection de Lazare. Alors, que nous raconte ce chapitre ? Jésus apprend que son ami Lazare est malade. Il attend 2 jours. Puis, il décide de se rendre en Judée, c'est-à-dire là où habite Lazare. Alors, ses disciples essaient de l'en dissuader, parce qu'ils savent que le déplacement va être dangereux. En Judée, on a déjà essayé de tuer Jésus. Et la plus élémentaire prudence serait d'éviter de s'y rendre. Mais Jésus persiste. Et il fait remarquer à ses disciples que tant qu'il fait jour, il faut marcher. Ensuite, Jésus annonce à ses disciples que Lazare est endormi et qu'il va le réveiller. Alors ses disciples, qui décidément n'ont pas envie d'entreprendre le voyage, disent à Jésus, s'il est endormi, s'il dort, c'est qu'il va mieux, et donc, sous-entendu, c'est pas la peine d'y aller. Mais Jésus précise sa pensée. Lazare est mort. Et il ajoute, je suis heureux de ne pas avoir été là. Étrange comme parole. Est-ce qu'il est heureux de ne pas avoir assisté à la mort de Lazare ou de ne pas avoir été là juste avant pour pouvoir le guérir? Et Jésus ajoute après cela, allons maintenant auprès de lui. Et c'est alors que Thomas intervient. Jusqu'à présent, les remarques que nous rapporte le narrateur, que nous rapporte Jean, ce sont des remarques anonymes. On ne sait pas qui fait la remarque, ce sont les disciples. Mais là, maintenant, on sait qui parle, et c'est Thomas. Et que dit-il ? Il a dit, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Dès cette première intervention, Thomas se signale par son réalisme, quelqu'un qui a les pieds sur terre, et par un humour ici un peu désabusé. Et son raisonnement, c'est le suivant. Tant que Lazare était encore en vie, ça valait peut-être la peine de prendre des risques pour aller le guérir. Mais maintenant qu'il est mort, le risque est inutile. Et Jésus vient de dire, allons auprès de lui, auprès de Lazare. Allons. Et Thomas commente, eh bien, allons, où est Lazare ? Lazare est mort et nous allons tous y passer, nous aussi. Pour aller rendre visite à un mort, nous allons tous y laisser notre peau. Et Thomas a bien conscience que on va pas pouvoir faire changer, que Jésus ne va pas changer d'avis. Les disciples 2 fois ont essayé de le dissuader d'aller en Judée. C'est peine perdue. Il ne reste plus qu'à suivre Jésus chez Lazare. Allons nous aussi pour mourir avec lui. À cette parole, Jésus ne répond pas. Ni pour faire un reproche, ni pour donner une explication qui pourrait rassurer Thomas. Parfois Dieu ne répond pas tout de suite. Mais la réponse ne va pas tarder. La réponse interviendra lorsque Jésus ressuscitera Lazare. Ce sont les faits qui vont démentir l'humour noir de Thomas. S'il nous arrive d'être portés comme Thomas à cet humour un peu désabusé, il se pourrait, à l'occasion, que Jésus, que Dieu nous démente. Certes, nous vivons dans un monde qui est bien dur et où il semble plus sage de prévoir le pire. Alors prévoir, peut-être. Mais le pire n'est pas toujours ce qui arrive. Ayons confiance en Dieu. La seconde intervention de Thomas, nous la trouvons dans les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute, chapitre 14 de l'évangile de Jean. Les disciples sont inquiets, ils sont profondément troublés. Jésus vient de leur annoncer que l'un d'entre eux va le trahir. Il leur dit qu'il n'est plus pour longtemps avec eux, qu'ils vont le chercher et qu'ils ne le trouveront pas parce qu'ils ne peuvent pas aller là où il va. Et Pierre qui disait, pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus a répondu, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et après ça, Jésus essaye de rassurer ses disciples. Il leur dit qu'il s'en va pour leur préparer une place. Et quand la place sera prête, il les prendra avec lui. Et il précise, vous connaissez le chemin. C'est alors que Thomas intervient. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ? La logique s'impose. Comment peut-on connaître un chemin d'une destination qu'on ignore? Et cette logique, c'est pas simplement une logique de pure forme, une logique de raisonneur tatillon, pénible, qui est toujours en train de dire... Non, derrière cette logique, il y a chez Thomas une inquiétude très profonde. Une inquiétude qui prend l'âme et qui la tord. Mais où va Jésus? Où est ce lieu où nous ne pouvons pas le rejoindre maintenant? On sent dans cette remarque, nous ne savons pas où que tu vas, on sent toutes les inquiétudes qui peuvent nous prendre lorsque peuvent marquer la relation avec un proche que l'on va peut-être perdre, qui va peut-être mourir. On sent la chose, on l'évoque peut-être à mots couverts. Thomas voudrait que Jésus soit plus clair, parce que la chose l'inquiète. Et quand Jésus lui dit « Vous connaissez le chemin », ça l'inquiète encore plus. Parce qu'il ne voudrait pas, Thomas, être embarqué dans une histoire de chemin que l'on connaît et dont on ne sait pas où il va. Et cette fois-ci, Jésus répond à Thomas. Mais la réponse de Jésus confirme qu'il faut faire confiance au chemin avant de connaître la destination, avant de connaître l'issue. C'est pas prudent quand on s'embarque avec n'importe qui, mais le chemin, là, c'est Jésus. Je suis, moi, le chemin. Et après avoir, pendant un premier temps, ignoré la réponse, la logique de Thomas, en parlant de chemin, alors que Thomas voulait qu'on parle de la destination, Jésus satisfait quand même à la demande de Thomas, puisqu'il ajoute « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc la destination, c'est bien le Père, c'est bien Dieu le Père. Mais il précise encore, Jésus précise, pour bien montrer que sa logique est différente de celle de Thomas, que ce n'est pas la destination qui fait le chemin, mais le chemin qui fait la destination. Si vous me connaissiez, si vous connaissiez le chemin, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez le bout du chemin. face à l'existence, face surtout à la mort, est-ce que nous ne sommes pas un peu dans la situation qu'évoque la remarque de Thomas ? Nous ne savons pas très bien où nous allons. Nous connaissons les promesses de Dieu. Si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous savons qu'il nous prendra avec lui. Mais par rapport à cette vie présente, tout cela est quand même entouré de bien des mystères inquiétants. Et l'inquiétude de Thomas peut nous aider à mieux percevoir notre propre inquiétude et à recevoir la réponse de Jésus. Je suis le chemin. Face aux imprécisions de la destination, c'est la connaissance du chemin qui est notre assurance. Des destinations intermédiaires ou de la destination finale, c'est la connaissance du chemin qui est notre assurance. Jésus est le chemin. Et nous arrivons au troisième épisode. Je voudrais m'arrêter sur quelques détails. On a souvent reproché à Thomas son absence à ce moment-là. Et ça donne bien sûr l'occasion de rappeler aux chrétiens qu'ils doivent être assidus au culte, aux réunions, et qu'ils risquent de manquer une bénédiction s'ils sont absents, ce qui est arrivé à Thomas. Alors tout ça est vrai, je vous encourage à être bien présents et assidus, mais pour Thomas c'est quand même un peu différent. Parce que Jésus n'avait pas annoncé à ses disciples qu'il allait venir tel jour, à telle heure. Et on ne sait même pas ce que les disciples étaient en train de faire au moment où Jésus s'est présenté. Et bon, ils étaient tous là, sauf Thomas. Mais rien n'empêche de penser que si Jésus était venu un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, ben Thomas aurait été là. Et puis ensuite, on reproche à Thomas de ne pas avoir cru ses collègues. Mais eux non plus n'ont pas cru. Lorsque des femmes sont venues leur dire qu'elles avaient trouvé le tombeau vide et qu'un ange leur était apparu et leur avait dit que Jésus était ressuscité. Alors est-ce qu'il faudra dire que Thomas, le doute de Thomas était plus grave parce que ce sont des hommes qui n'ont pas cru alors qu'eux n'avaient pas cru des femmes ? C'est pas très sympathique. Ou alors, est-ce qu'il faudra dire que les hommes que Thomas n'a pas cru étaient plus nombreux que les femmes que les autres disciples n'ont pas cru? Ou alors, est-ce qu'il faudra lui reprocher d'avoir exprimé son incrédulité, de son doute de manière si catégorique? C'est pas la peine de me raconter des histoires. Hein. Si je ne vois pas de mes yeux la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans cette marque, je ne croirai pas. Thomas apparaît ici comme se pose en irréductible, celui qui ne se laisse pas gagner par la joie, par l'effervescence des autres. Il lui faut des preuves pour croire. Alors, n'allons pas quand même, à l'inverse de ceux qui critiquent Thomas, le magnifier. Jésus lui a reproché de ne pas avoir cru. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et à la fin, Jésus recommande une autre attitude que celle de Thomas. Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Donc, il ne s'agit pas d'approuver Thomas dans son refus de croire. Mais nous pouvons constater que la présence de cet homme, avec les pieds sur terre, parmi les premiers témoins de la résurrection, pour nous c'est quand même une sécurité et un puissant encouragement à croire nous aussi. Ce que Thomas a cru, nous pouvons aussi le croire. Et en plus, Thomas est pour nous un exemple important, parce que après avoir exprimé hautement et après une telle véhémence, après avoir exprimé ses doutes, il n'a pas fui la compagnie de ceux qui croyaient. De sorte que lorsque Jésus est revenu, il était là. Et ainsi Thomas peut nous aider à mieux gérer et surmonter nos propres doutes et ceux de nos frères et sœurs. L'Église, c'est la communauté de ceux qui croient. Mais d'une part, l'Église doit accueillir des gens qui doutent, pour que dans l'Église, la présence de Jésus vienne dissiper ces doutes. Et puis il faut même dire que les croyants qui se réunissent dans l'Église, vous et moi, ces croyants sont aussi traversés de doutes, plus ou moins profonds. Des doutes que nous cherchons à apaiser, à surmonter par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière, par la louange, par l'adoration, la communion. Thomas ne s'est pas séparé des autres parce qu'il doutait, et les autres ne l'ont pas exclu, ne l'ont pas chassé parce qu'ils ne voulaient pas les croire. Ils avaient eu eux-mêmes déjà tant de peine à croire. Et puis, ils étaient eux-mêmes tellement convaincus que Jésus était ressuscité, les doutes de Thomas n'allaient pas les ébranler. Ils étaient fermes dans la foi et ils étaient humbles. Et donc, ils ont laissé Thomas au milieu d'eux. Avec ses doutes, ils ont continué à l'accueillir. Et c'est Jésus lui-même qui est venu convaincre Thomas en lui montrant ses mains et son côté. Et ainsi, les autres disciples ont pu assister à cette scène admirable, cette scène émouvante que Jean décrit avec tant de discrétion et de retenue. Jésus salue les disciples, puis il appelle Thomas. Approche, regarde, touche la marque des clous, la marque de la lance dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et on ne sait pas ce que fait Thomas. Est-ce qu'il a vraiment touché les plaies de Jésus? On ne nous le dit pas. C'est un peu comme si nous étions à sa place. Et nous nous sentons intimidés, confus, comme Thomas, tout bête de ne pas avoir cru. Et nous entendons Thomas dire dans un souffle, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il ne peut pas en dire plus, le pauvre. Mais comme il en dit, dans ces deux mots, il est le premier disciple à appeler Jésus « mon Dieu ». Nul autre ne l'avait fait avant lui. Notre foi est-elle traversée de doutes? Restons dans la compagnie de ceux qui croient, là où Jésus a promis d'être présent.